Alors, ce qu'il faut dire de tout cela, et c'est la conclusion que je tirerai, en fait, ce qui se passe dans la première moitié du 19e, je vous en ai parlé, je dis la démence coloniale, c'est qu'au même moment qu'il y a la progression des droits sociaux, des droits civiques, pardon, des esclaves. L'affranchissement est multiplié. Il y a l'affranchissement de 1848, bien sûr, mais avant, dans la presse, vous avez des dizaines et des dizaines d'affranchis à chaque numéro. Vous avez l'inscription toute nouvelle des naissances d'esclaves dans les registres paroissiaux. Il n'y avait pas ça avant. Donc il y a un progrès. Et dans le même temps qu'il y a la progression de l'égalité civique, il y a la disparition d'une égalité anthropologique, si elle avait jamais existé. En tout cas, la racisation fait exactement le chemin inverse. Et à l'arrivée, on obtient ce que l'on a, c'est-à-dire le racisme institutionnalisé. Voilà. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'on peut interpréter, selon moi, ces formes créoles métissées comme des formes de résistance à la ligne de couleur, précisément. Ah, vous m'empêchez de passer d'un côté à l'autre. Ben si, moi je fais. Je fais des danses venues de France. Et je les fais éventuellement avec du tambour. Je mélange tout. Et si je pense ça, c'est parce qu'on a déjà des exemples antérieurs qui nous incitent à penser ça. Et je repense encore une fois, je l'ai déjà cité, cette anecdote qui est assez étonnante, de la Crête à Pierrot. Alors là, je reviens à la Révolution haïtienne. À la Crête à Pierrot, il s'est passé quelque chose de tout à fait inédit. Vous savez peut-être les circonstances. La Crête à Pierrot, c'est une zone qui se trouve au nord d'Haïti, dans l'Artibonite. Et à cet endroit-là de la bataille, en 1802, Dessalines est isolé sur un morne avec ses soldats. Et il est encerclé, pas isolé, il est encerclé, et autour, il y a toutes les troupes françaises. Et les troupes françaises lancent l'assaut, et puis la Crête à Pierrot, elle n'est pas restée celle pour l'anecdote que je vais vous expliquer, mais elle est restée celle pour un autre haut fait, c'est que pendant la nuit, toutes les troupes haïtiennes, elles ne s'appelaient pas d'ailleurs haïtiennes à l'époque, elles s'appelaient les troupes indigènes, elles sont passées à travers les lignes françaises sans qu'ils s'en rendent compte, et le matin, il n'y avait plus personne. Okay? Donc ça, c'est un haut fait d'armes qui a permis à Dessalines de prendre le large et de continuer la lutte. Mais ce que je veux vous raconter, c'est autre chose. Quand on est à l'époque dans un combat, eh bien, il y a des temps morts, parce qu'il faut recharger. Et recharger, ça prend énormément de temps. Recharger un fusil, recharger un canon, ça prend beaucoup de temps. Or, Dessalines avait fait venir des musiciens. Il avait fait venir des musiciens blancs, et pendant les temps morts, il leur faisait jouer des airs de la Révolution. La Carmagnole, Ah ça ira, etc. Et le général français, parce qu'on a des témoignages des deux côtés, il se trouve, on a quelqu'un qui était emprisonné avec Dessalines, qui était un otage, entre guillemets, et on a aussi le témoignage d'un général qui dit, mais nos soldats se demandent, mais de quoi ils parlent là? C'est qui en fait les révolutionnaires de... C'est eux ou c'est nous? En fait, Dessalines est en train de montrer aux Français que l'espace sonore, ça leur appartient pas. Moi aussi, si je veux, je joue cette musique. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que Dessalines, ensuite, a été couronné, en 1804, a été couronné empereur sur un air du Devin de village de Rousseau. Donc voilà, là, ça c'est la liberté déjà que les Haïtiens ont dans la tête, qui consiste justement à ben, on peut faire n'importe quelle musique, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc c'est pour ça que j'aurais tendance à penser ça des formes créoles métissées du 10e siècle. C'est une forme de résistance. Alors là aussi, c'est peut-être un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on a l'habitude de dire. On a dit justement à l'époque de Marie-Céline Lafontaine, qui avait écrit un célèbre article sur le quadrille et qui s'est fait tirer dessus, si on peut dire, que le quadrille, c'était pas authentique, etc., etc. Je pense pas du tout. Je pense que le quadrille, au contraire, c'est quelque chose de tout à fait authentique, c'est quelque chose de tout à fait identitaire, et qu'on aurait tout à fait tort de confondre ça avec du doudouisme. Ça n'a rien à voir, mais ça n'a absolument rien à voir. C'est quelque chose de fondamentalement dans l'histoire. Alors je vais conclure, j'espère ne pas avoir été trop long, mais je vais conclure, parce que, en définitive, ce qu'on voit se dessiner là, c'est une histoire des luttes, une histoire des mémoires et une histoire des identités. Et en fait, ce qui se dégage de tout ce que j'ai dit, c'est quelque chose comme une anthropologie de la musique. Et l'anthropologie de la musique, elle a été bien définie par son créateur, qui s'appelle Alan Merriam, un ethnomusicologue américain, qui a dit « L'anthropologie de la musique, c'est pas seulement l'étude de la musique dans la culture, c'est l'étude de la musique comme culture ». Et là, on a, avec tous les éléments que je vous ai montrés, on a quelque chose qui est de l'ordre d'une mémoire historique. La mémoire historique de quelque chose qui ne peut pas se dire autrement. Et face à cette culture, on notera que la complexité de l'histoire créole, elle n'est absolument pas prise en compte par la musicologie française. Je vous ai parlé du vide bibliographique au début. Et que, en définitive, ça, c'est la permanence d'un regard colonial sur la musique des Antilles. Et j'espère bien que tous ensemble, avec les collègues qui font de la musicologie et qui écrivent des livres sur la musique aux Antilles, j'espère bien qu'on réussira à casser ce cercle vicieux d'une musicologie qui reste imprégnée de pensée coloniale. Je vous remercie beaucoup.